RFI et France 24 présentent
Mardi Politique.
C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ce soir nous recevons Boris Vallaud, député socialiste des Landes et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. On commence par la forme. Ce nouveau gouvernement compte 31 ministres, 8 marcheurs, 6 de droite, une écolo, 2 stars, Éric Dupond-Moretti, ténor du Barreau, et Roselyne Bachelot, ancienne chiracienne et devenue chroniqueuse à la télé, maintenant ministre de la Culture. Alors comment qualifier, selon vous, cette nouvelle équipe ?
C'est difficile de la qualifier. Moi, le sentiment que j'ai eu en regardant l'annonce du gouvernement, c'était tout ça pour ça. Finalement, le sentiment, c'est un peu un jeu de bonneteau, quoi. On a bougé les gobelets, mais enfin, quand on soulève les gobelets, il y a toujours les mêmes têtes. Donc on nous avait dit qu'il y aura un nouveau chemin. On a lu l'interview du président de la République dans la PQR. C'est le même chemin qu'hier. Sur l'assurance chômage, sur la réforme des retraites, sur... Oui, pas de changement de cap, pas de
remise en question. Mais des priorités tout de même, avec des priorités sur l'économie, le social, l'hôpital, la...
Manifestement, tout est prioritaire. Mais vous savez, quand le président de la République dit c'est les jeunes, c'est les personnes âgées, c'est... Oui, très bien, mais c'est effectivement ce qu'on attend de sa part. Mais le nouveau chemin n'est pas un nouveau chemin. Les nouvelles têtes ne sont pas vraiment des nouvelles têtes. Au fond, quel est le fait majeur de ce remaniement ? C'est qu'il y avait un Premier ministre très populaire qui a été remplacé par un Premier ministre très populaire qui a été remplacé par un Premier ministre pas connu du tout.
Qui deviendra peut-être populaire.
Qui deviendra peut-être populaire, mais dans le choix qui est fait d'un haut fonctionnaire, le sentiment que cela donne, c'est que Emmanuel Macron a fait le choix de cumuler les fonctions de président et de Premier ministre et de nommer à Matignon un directeur d'administration centrale. Et au fond, qui va déterminer et conduire la politique de la nation ? Vous me direz, c'est au fond l'esprit de l'essence de la Ve République telle qu'elle est aujourd'hui. Et moi, je suis très critique. Mais tout converge et tout procède du président de la République.
Ce qui est largement commenté, c'est que c'est un gouvernement qui est assez à droite. Il y a beaucoup de personnalités. Jean Castex, le Premier ministre, notamment. Bruno Le Maire, qui prend de l'importance. Gérald Darmanin, qui en prend aussi. Le retour de Roselyne Bachelot. Enfin bref. Est-ce que Emmanuel Macron est en train de faire le pari qu'il pourrait être le candidat de la droite en 2022 ?
Écoutez, il est déjà le candidat de la droite. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une forme de clarification. Pendant les élections municipales, au second tour, à quoi avons-nous assisté ? À une alliance des Républicains et des Marcheurs. Contre, d'ailleurs, le Front écologique et social qui s'était constitué dans un certain nombre de villes. Et que se passe-t-il au gouvernement ? L'alliance
contre la gauche. Ça, c'est cohérent, parce que cette accusation-là, elle est quand même un peu étonnante. C'est ce que dit Yannick Jadot, le front anti-climat. C'est pas anti-climat, c'est anti-Europe écologie des Verts,
C'est une alliance de la droite et de la République en marche, mais qui dit, et oui, c'est la même chose au gouvernement. Vous avez raison de noter qu'en réalité, beaucoup de les compagnons de route d'Emmanuel Macron ont disparu de la circulation. Je pense à Didier Guillaume, je pense à Christophe Castaner, je pense à Sibeth Ndiaye, ou à Muriel Pénicaud. Ils sont plus dans le casting. Et aujourd'hui, on a un gouvernement de droite, et au fond, on revient à quelque chose d'assez classique. C'est un affrontement gauche-droite, et la politique est conduite depuis plusieurs années. Et de cette veine-là. Donc,
mais l'électorat d'Emmanuel Macron, il a glissé au fil du temps au centre-droit et à droite. Donc en fait, en réalité, il fait de la politique et à la fois il étouffe la droite, celle des Républicains, il les assèche totalement. Mais je crois que il compte pas sur la gauche.
Les Français savent à quoi s'en tenir. Voilà, nous avons un président qui a nommé un Premier ministre de droite, plus à droite probablement que Édouard Philippe. Il a, promu un certain nombre de ministres qui étaient des ministres venant de la droite. Son aile gauche est plus ou moins partie de La République En Marche, tout en demeurant, pour une partie d'entre elles, macroniste. Voilà, on en est là. Donc c'est le candidat de la droite qui mène une politique de droite. Et pour ce qui nous concerne, eh bien, cette clarification, je la trouve plutôt salutaire, parce que moi, je crois à la nécessité du débat, et tout ne se vaut pas.
Oui. Certains à gauche auraient décliné, on parle de Valérie Rabault, et de François Rebsamen auraient décliné l'entrée au gouvernement. Est-ce que vous confirmez ?
Ah, écoutez, je l'ai lu comme vous, j'ai pas eu de confidence de leur part, mais je ne m'en étonne pas, franchement. Même Édouard Philippe a préféré regagner un port, celui du Havre, pour au moment du naufrage.
Hein, mais enfin,
je ne sais pas. En tout cas, je pense que finalement, il n'est pas le plus.
Il faut qu'on s'arrête.
Il n'y a aucune raison que Valérie Rabault, que je connais bien et qui est la présidente du groupe à l'Assemblée, rejoigne cette aventure un peu calamiteuse.
Maurice Vallot, il faut qu'on s'arrête un instant sur quelques personnalités, parmi lesquelles, évidemment, la plus emblématique, la plus commentée, Éric Dupond-Moretti, donc le célèbre avocat, qui est désormais garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est effectivement une personnalité très forte. Est-ce que c'est un pari risqué qu'a fait Emmanuel Macron en le nommant à ce poste?
C'est une personnalité qu'on ne découvre pas. Une personnalité qui est tonitruante, qui est un avocat de talent. Je crois que le surnom qui lui est donné...
Acquittateur.
On est le témoignage. Ensuite, il n'est pas impossible que ce soit le genre de ministre à partir sur un désaccord. Mais voyez, moi, je ne suis pas pour commenter le remaniement par l'anecdote. Le casting, très bien, mais enfin, le chef d'orchestre reste le même, la partition reste la même, et donc la musique restera.
Alors, l'interprète fait beaucoup en musique.
C'est un mélomane qui vous parle.
C'est pas faux.
Mais alors, selon vous, la direction prise, il n'y a pas de nouveau cap, mais il y a des nouvelles personnalités. Ces priorités ne vous paraissent pas, pour l'instant, frappées au coin du bon
mais
sens.
Vous savez,
qu'est-ce que vous auriez
aimé les priorités, évidemment que nous les partageons. Et nous disons le rebond économique, le rebond social, le rebond écologique. Et nous avons dit il y a des mesures à prendre immédiatement, pas attendre septembre, parce que
c'est-à-dire
plus des mesures de soutien à l'emploi, notamment à l'emploi des jeunes, des mesures de soutien à la transition écologique. Je pense notamment à la question de la rénovation thermique. C'est pas des choses que l'on peut différer. Et le sentiment que donne le gouvernement, c'est d'attendre septembre. Et les remèdes apportés à cette crise tardent, plus la facture et la fracture sont profondes. Et on en est là. Et là, écoutez, le président Emmanuel Macron préfère changer de Premier ministre, faire le casting qui fait beaucoup parler, au lieu de se mettre au travail. Et moi, je pense qu'il faut se mettre au travail. Pour ce qui nous concerne, on a fait des propositions. On a fait des propositions le 9 juin, elles ont été rendues publiques. Hein, c'est pour un rebond économique, écologique et social, je me permets de le dire. Il y a 45 propositions dans tous les domaines, pour ceux qui ont été et qui seront malheureusement les premières victimes de la crise, pour les territoires qui sont les fers de lance de cette reprise, pour les entreprises qui ont besoin qu'on les aide dans la reconquête et dans la survie. Pour l'instant, il y a une forme un peu
d'attentisme. Le plan de relance, il est prévu pour fin août. Vous pensez qu'en fait, ce délai là qui est en train de se passer,
tout le temps perdu aggrave la crise, aggrave la facture parce que ça coûte de l'argent, et aggrave la fracture parce que il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi. Et il y a des choses qui devaient être décidées promptement. Confier aux partenaires sociaux le soin de renégocier la réforme de l'assurance chômage qui a déjà été conçue sans eux, sans leur accord. C'était une mauvaise réforme en période de relative croissance. C'est une réforme mortifère dans la période que nous vivons. Et pourquoi ce n'est pas encore entre les mains des partenaires sociaux? Pourquoi nous dit-on on va reprendre la réforme des retraites alors que pas un partenaire social n'en veut aujourd'hui et dit que c'est la priorité? La priorité, c'est la politique industrielle, l'emploi, la formation et la question de la jeunesse. Pourquoi attend-on?
La question de la relance européenne.
Et la question de la relance européenne, mais qui est un calendrier qui ne dépend pas que de nous.
Non, mais l'argent va être. On va bénéficier de cet argent.
Bien sûr, mais il y a aussi la nécessité de faire des choses en France maintenant. Le gouvernement peut en décider. C'est une crise qui, évidemment, appelle chacun d'entre nous à la solidarité, et en particulier les hauts revenus, en particulier les entreprises multinationales. Toutes n'ont pas été affaiblies dans la crise. Et de ce point de vue-là, le gouvernement n'agit pas.
Est-ce que vous pensez que Barbara Pompili, qui a été nommée à la transition écologique, est la personnalité qui peut donner un nouvel élan à ces questions?
J'aimerais, de façon...
une question de personnalité.
Certaine, vous dire oui. Oui, en plus de ça, Emmanuel Macron a été touché par cette espèce de révélation tardive, mais enfin, il est convaincu. La difficulté, c'est que j'ai du mal
à concevoir... Il est convaincu, vous le pensez, ou vous dites qu'il le dit ?
Il le dit. Pour l'instant, il est plus habile à inventer des slogans qu'à produire des actes. Il y a cette convention citoyenne. Cette convention citoyenne, dans un certain nombre de ses propositions, elle arrive à des conclusions qui sont très proches de celles que nous avions pu formuler en décembre 2019, c'est pas si vieux que ça, dans ce qu'on appelle la niche parlementaire. C'est le moment où nous proposons nos lois. Il y a par exemple sur
la rénovation thermique des bâtiments.
On a proposé une prime climat qui permet de sortir 12 millions de Français de la précarité énergétique, d'éliminer 7,5 millions de passoires énergétiques en 10 ans, d'atteindre les objectifs de neutralité carbone à horizon de 2050. C'est un impératif. Écoutez, c'est pas compliqué, on simplifie les dispositifs. Un seul dispositif qui permet de n'avoir zéro reste à charge à payer au moment des travaux. Et avec et une partie subventionnée,
pas d'avance.
Une partie subventionnée et une partie dont le remboursement est différé, ça peut être dans 10, 20, 30 ans, au moment de la revente, au moment de la succession. Mmh. Avec un seul interlocuteur, l'ANA, et la Caisse des dépôts qui emprunte sur les marchés, aujourd'hui à des taux très, très favorables. Et donc là, on solvabilise le marché, on donne de la visibilité au secteur, et on fait du secteur du bâtiment, de tous ces artisans, et ça intéresse la jeunesse aussi, les hussards verts de cette conversion écologique. Proposition faite au mois de décembre, reformulé en des termes un peu différents par la Convention citoyenne, mais qui avait été balayé par la majorité, balayé par le gouvernement. Donc moi, je dis à la nouvelle ministre, à qui j'ai envoyé ce document, écoutez, passez à l'acte. Parfois, vous semblez faire, mais bien souvent, vous faites semblant. Maintenant, il est plus possible de différer. Donc,
certains disent que vous voyez beaucoup trop grand et que l'outil de production ne va pas suivre.
Mais vous savez, il y a un mur qui s'impose à nous, qui est celui du réchauffement climatique. Nous savons que nous avons voté le principe de l'urgence climatique dans la loi. La loi, ça nous oblige, ça oblige l'action publique. Nous avons vu aussi que dans la crise que nous avons vécue du Covid, il y avait une forme d'ultimatum. Voilà. Et que nous devions changer d'échelle. Les passoires énergétiques, il faut les rénover. L'horizon de 2050 pour la neutralité carbone, c'est une stratégie qui a été votée nationalement. Elle s'impose à nous tous. Alors, on peut différer, on peut se trouver toutes les bonnes raisons, mais quand vous dites « il faut le faire », il faut donner de la visibilité à un secteur qui a un rôle primordial, parce qu'il y a les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Eh bien, il faut le faire. Donc on peut m'expliquer ce qu'on veut, qu'on voit trop grand, sauf que les chiffres, malheureusement, sont têtus.
Donc avec tout ce que vous nous dites, finalement, vous n'avez qu'à faire une alliance et un parti avec les Verts, puisque c'est un peu ce qu'Olivier Faure a suggéré au lendemain des municipales.
Ce que nous disons, c'est que quand la gauche dans sa diversité est unie, on peut battre la droite et la République en marche unie. Et donc oui, ces élections municipales, d'une certaine manière, donnent un chemin. Oblige à travailler sur un certain nombre de sujets ensemble, on aura des désaccords, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, mais enfin on doit pouvoir trouver la façon de les surmonter, parce que si c'est pas nous, c'est qui ? C'est encore un tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et je crois qu'il est notre responsabilité de sortir de ce tête-à-tête mortifère. Alors moi, je ne suis pas dans les questions de personne ou de leadership. En général, quand on commence par ça, on finit par avoir 12 candidats. Donc moi, je suis pour qu'on travaille. Il y a des choses que l'on peut, que l'on peut construire ensemble. Et dans les territoires, c'est des projets de territoires partagés qui ont été construits.
Mais aujourd'hui, dans les sondages, alors évidemment, on est à 2 ans encore de l'élection présidentielle, mais un candidat socialiste est donné à combien ? 3-4%. Vous n'avez pas pesé lourd dans cette alliance, du coup. C'est quand même important d'arriver en disant voilà la dot, quoi.
Et dans les élections municipales, nous dirigeons, par exemple...
Oui, mais là, c'est autre chose. Vous avez un ancrage territorial depuis longtemps. C'est l'histoire de PS.
Mais ce sont des choses qui comptent. Aussi, je veux dire la
présidentielle, c'est une autre affaire.
La vie quotidienne, bien sûr, mais c'est aussi, on est aussi fort de ce maillage territorial, de la politique qui change concrètement la vie des gens, notre façon d'habiter, de se déplacer, de se nourrir, de produire. Voilà, il y a des choses qui se font. Et puis, effectivement, il y a les sondages, mais enfin, on travaille. La question est de savoir ce qu'on est capable de proposer les uns et les autres ensemble aux Français. Voilà.
Un petit mot peut-être de la commission parlementaire sur le Covid que vous vice-présidez, dont vous êtes le vice-président. Les auditions s'enchaînent. Oui. Il y en a eu quelques-unes très médiatisées, évidemment, notamment celle du professeur Raoult. Où en êtes-vous dans vos travaux ? Est-ce que vous voyez des choses qui se dégagent d'ores et déjà ?
Alors, écoutez, on a déjà auditionné beaucoup de professeurs de médecine, vous avez évoqué le professeur Raoult, mais on a auditionné le comité scientifique, on a auditionné tous les anciens ministres.
Y compris Roselyne Bachelot.
Nous avons auditionné tous les anciens directeurs généraux de la santé. Quel est l'état d'esprit dans lequel nous sommes? C'est comprendre ce qui s'est passé. Et répondre à cette question, est-ce que la France était prête? Est-ce que, évidemment, il y a des pays où il y a plus de morts, mais il y a des pays où il y en a moins, notamment en Allemagne.
Beaucoup moins.
Ah oui, beaucoup moins. Et donc, il faut évidemment en tirer les conséquences. Est-ce que nous étions prêts? Est-ce qu'il y a eu des défaillances, des manquements? Et il y en a eu très certainement. Que s'est-il passé dans notre rapport au risque sanitaire, dans la préparation? Est-ce que les décisions ont été prises promptement? Il y a évidemment la question des masques, qui est un sujet majeur. Et là, on voit qu'en 2018, il s'est passé quelque chose. Quand on détruit 600 millions de masques et qu'on n'en recommande que 50 millions, et éventuellement 50 millions supplémentaires s'il y a les moyens budgétaires, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, où c'est les stocks qui commandent la doctrine, la doctrine d'emploi et la communication.
Là, il y a une responsabilité collective, que ce soit de la droite ou de la gauche.
Écoutez, il y a des responsabilités. Après, c'est un gouvernement, celui qui a eu à gérer cette crise, qui n'est pas arrivé il y a trois mois, qui est arrivé maintenant.
Mais c'est pour faire tomber les têtes ou pour en tirer des conclusions et des leçons?
Nous, on n'est pas un tribunal, et les responsabilités que le Parlement détermine, c'est les responsabilités politiques. Il peut y avoir des responsabilités politiques qui engagent. Évidemment, le gouvernement, sur ce plan-là. On ne confond pas ce qui relève du juge et ce qui relève du Parlement. Mais on a besoin de comprendre et on a besoin de répondre à des questions bêtes, et c'est pas toujours évident d'y répondre. C'est, est-ce qu'une massification des tests tout de suite aurait changé la stratégie de confinement et de déconfinement?
Non.
J'en sais rien. J'en sais rien. Et bien, c'est précisément ce qu'il faut qu'on détermine. Est-ce que si nous avions eu...
peut-être, mais les masques?
Eh bien, je sais pas. Ouais. Vous savez, au moment où on disait que c'est pas très utile, l'Allemagne disait, écoutez, débrouillez-vous comme vous voulez, mettez des écharpes.
Les informations changent tous les jours. Vous avez entendu encore qu'aujourd'hui, sur les enfants et leur protection par d'autres coronavirus antérieurs.
C'est pour ça qu'il faut aborder.
Sur la possibilité de l'attraper à l'extérieur, les informations changent aujourd'hui aussi. Enfin, c'est en permanence.
C'est pour ça qu'il faut aborder, évidemment, ce sujet avec modestie, mais aussi prendre la mesure du fait que l'incertitude, qu'il y a toute gestion de crise, commande en réalité d'envisager les scénarios les plus graves. Et s'il devait, ce que personne ne souhaite, y avoir une deuxième vague, voire une autre pandémie, évidemment, il faudrait qu'on ait tiré des conclusions de ce qui s'est passé là. Et donc c'est l'état d'esprit de cette commission d'enquête.
Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous. Boris Vallot. Et puis on se retrouve donc mardi prochain. Merci à toute l'équipe technique. Oui, la dernière. Et on se retrouve à la rentrée.
À la rentrée, bien sûr.
Je remercie Charlotte Urien, Thomas Kaye, à toute l'équipe technique. Un grand merci. À très vite.